Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 6h.
Si quelqu'un a un accident de voiture, ou une crise cardiaque, ou n'importe quoi, on n'aura pas assez de place pour les accepter.
Les hôpitaux de Londres, bientôt submergés face aux patients Covid qui affluent, le maire a décrété l'état d'urgence, le nouveau variant est mis en cause.
En France, la vaccination s'accélère, et pour éviter la propagation de l'épidémie, le couvre-feu à 18h sera donc élargi à de nouveaux départements dès demain.
Un garde des Sceaux visé par une information judiciaire, Éric Dupond-Moretti, est dans le viseur de la justice soupçonné de prise illégale d'intérêt.
Et puis le foot, Lyon pourrait être sacré champion d'automne ce soir. L'OL impressionne depuis le début de la saison.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est le genre de discours que l'on relit avant de le prononcer, dont on pèse chaque mot. Hier, le maire de Londres a évoqué la submersion des hôpitaux de sa ville.
L'épidémie est hors de contrôle dans la capitale britannique. Si les courbes ne baissent pas, les lits manqueront bientôt. Sadiq Khan a décrété un état d'incident majeur à Londres. C'est une sorte d'état d'urgence. Londres où chaque jour 800 personnes sont admises à l'hôpital. Le nouveau variant, plus contagieux, provoque une vague sans précédent. Nina Guerino de la mairie.
Et oui, 7000 malades sont actuellement hospitalisés, soit 40% de plus qu'en avril, lors du premier pic de la pandémie. Morale à zéro, horaire de travail à rallonge. Au University College Hospital, dans le centre de Londres, le personnel soignant est à bout. Ashley s'occupe de 3 ou 4 patients sous oxygène à la fois, et l'infirmière doit choisir entre les malades, confie-t-elle sur la BBC.
On doit prioriser, ce n'est pas le service de santé dans lequel j'ai grandi. On ne devrait pas choisir quel patient soigner en premier.
Dans les hôpitaux, la plupart des services sont aménagés en cellules de soins intensifs, ce qui est un vrai problème pour le docteur Jim Down.
Si quelqu'un a un accident de voiture, ou une crise cardiaque, ou n'importe quoi, on n'aura pas assez de place pour les accepter.
Hier, le maire de Londres a donc déclaré un incident majeur, une sorte d'état d'urgence qui doit permettre de mobiliser tout le service public pour sortir de cette crise. Et si rien n'est fait, les lits d'hôpitaux pourraient manquer dans les 2 prochaines semaines, craint Sadiq Khan.
Nina Guerino de la mairie à Londres pour Europe 1. En Grande-Bretagne, 2 vaccins sont déjà utilisés, ceux de Pfizer et d'AstraZeneca. Hier, les autorités britanniques ont donné leur feu vert au déploiement du vaccin Moderna. La France a fait de même.
Et chez nous, la vaccination a mis du temps à démarrer, mais elle est bel et bien lancée désormais. 80 000 personnes ont été vaccinées cette semaine.
Des personnes âgées, résidentes en EHPAD, mais aussi des soignants de plus de 50 ans. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, Stéphane Place, les soignants sont visiblement volontaires.
Oui, dès l'ouverture du centre bordelais, par exemple, François Martial, qui préside l'Union régionale des pharmaciens, est venu recevoir cette première injection.
En tant que pharmacien, j'estime, connaissant le produit, que nous n'avons pas à hésiter, nous devons être vaccinés au maximum.
Chef de service au CHU de Bordeaux, le professeur Marie-Édith Lafont n'a pas non plus hésité à se faire vacciner.
Je suis virologiste et depuis que j'ai fait mes études, ça commence à remonter un peu. On nous parle du vaccin du futur, qui est un vaccin à ARN, mais les moyens n'ont jamais été mis sur ces vaccins. Et le seul avantage de cette pandémie, c'est qu'enfin les États ont payé la recherche qui pouvait permettre de finaliser ces travaux. Et je crois vraiment que ça ouvre une nouvelle ère dans le domaine des vaccins, pas seulement pour la Covid.
18 centres de vaccination d'ores et déjà ouverts cette semaine en Nouvelle-Aquitaine. Benoît Elbod dirige l'Agence régionale de santé.
Il faut qu'on protège les professionnels de santé, comme ça, que ce soit du virus que l'on connaît aujourd'hui ou d'une autre variante. S'il y a une troisième vague, nos professionnels de santé sont protégés, les personnes à risque sont protégées des formes graves, on n'a plus d'embolisation des hôpitaux, on n'a plus de mortalité et à la fin ça devient comme une grippe qui a lieu chaque année et on n'a pas besoin de bloquer l'économie et d'avoir des mesures contraignantes.
Et d'une centaine de vaccins les premiers jours, on est passé ici à 4200 dans la seule journée de jeudi par exemple.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux, notait que dès le 18 janvier, toutes les personnes de plus de 75 ans pourront à leur tour se faire vacciner.
Ouais, et les jeunes dans tout ça, hein, les jeunes, eh bien Ségolène Royal, elle a recommandé à Emmanuel Macron hier à Jarnac de vacciner en priorité les jeunes. Explication de texte avec elle, justement, Ségolène Royal sera notre invitée à 8h15. La liste devrait être dévoilée dans la journée. Une dizaine de départements pourraient, Marguerite, basculer dès demain en couvre-feu avancé.
Et appliquer donc cette nouvelle règle, retour à la maison dès 18h, comme le font déjà les habitants de 15 départements de l'Est du pays. À ce stade, on sait que le Bas-Rhin est concerné, le Cher pourrait l'être également, et ça ne plaît pas à Philippe Moisson, le président de l'association des maires du Cher.
Franchement, on n'en voit pas l'intérêt. Si ce n'est d'embêter les gens. Aujourd'hui, déjà, on a un couvre-feu à 20h. Aujourd'hui, nous, on est en milieu rural. Les gens, à partir de 20h, donc, ne sortent plus. Donc, si on met à partir de 18h, on ne voit pas ce que ça va apporter de plus. parce que ça va juste créer des problèmes vis-à-vis des familles qui vont devoir courir pour aller faire les courses avant 18h, parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer à 18h? On va fermer les commerces. Par contre, les gens qui travaillent vont continuer à travailler, même au-delà de 18h, avec des attestations, pour aller chercher des enfants dans les centres de garderie, des écoles, des accueils périscolaires, ça va continuer. Il y aura plus de monde entre 17h et 18h dans les commerces, et puis plus de monde les week-ends dans les grands magasins. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement fermer les magasins, les grandes surfaces plus tôt, et qu'on va concentrer une partie de la population sur des horaires plus restreints. Et très honnêtement, aujourd'hui, les élus du Cher n'en voient pas l'intérêt.
Philippe Moisson, président de l'association des maires du Cher, avec Hélène Terzian.
Pour eux, le couvre-feu et même le confinement n'étaient pas synonymes de restriction.
Deux gérants d'une boîte de nuit sont jugés près de Lyon pour avoir organisé une vingtaine de soirées du mois d'avril au mois d'octobre, jusqu'à 150 personnes sans masque ni gel, au mépris de toutes les consignes sanitaires. Le parquet hier a requis 8 mois de prison. À Vienne, Jean-Luc Boujon.
Étaient-ils inconscients ou bien ont-ils délibérément bravé le confinement pour faire de l'argent en organisant des soirées clandestines à plus de 150 personnes? La question n'a pas été tranchée hier au tribunal de Vienne. À la barre, l'avocat d'un des prévenus a mis en avant la jeunesse de son client âgé de 20 ans et son incapacité à dire non aux amis des amis des amis, alors que lui voulait simplement se réunir à 10-15 avec des copains pour danser et boire un verre. La procureure de Vienne, elle, a estimé que l'explication ne tenait pas, car ces soirées, 22 au total, entre avril et octobre dernier, était parfaitement organisé avec vigile, DJ, barman et parking discret. Bien organisé, sauf sur le plan sanitaire, puisque personne ne portait de masque. La procureure qui a réclamé jusqu'à 8 mois de prison ferme contre l'un des prévenus, excessif selon son avocat, maître Maxence Pascal.
C'est la jeunesse qui ne prend pas totalement conscience, notamment au mois d'avril 2020, des risques qui sont encourus s'ils violent les mesures sanitaires qui ont été ordonnées par le gouvernement. Ces jeunes à qui l'on a en partie volé leur jeunesse. Je crains qu'on tente d'en faire un exemple, ça c'est certain.
Exemplaire ou non, le jugement dans cette affaire sera rendu le 22 janvier prochain. Vienne, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Ça n'est pas une première sous la 5e République, mais voilà qui va assurément fragiliser le garde des Sceaux.
Éric Dupond-Moretti est visé par une information judiciaire pour prise illégale d'intérêt. Il est question du dossier Paul Bismuth. Le ministre est soupçonné de se servir de sa fonction pour régler ses comptes. Plusieurs plaintes ont été déposées, notamment par le syndicat de la magistrature, dont Katia Dubreuil est la présidente.
Nous sommes bien sûr satisfaits qu'une enquête puisse être ouverte pour aller au fond des choses sur ce sujet. Depuis le départ, le ministre a opposé une fin de non-recevoir à nos questionnements par rapport à son positionnement institutionnel, à savoir que quand on devient ministre et qu'on a été avocat, on a représenté des intérêts privés, on a représenté éventuellement ses propres intérêts, puisqu'il avait lui-même déposé plainte contre le PNF quelques jours avant de devenir ministre. Et quand on devient ministre, on doit représenter l'intérêt général. Ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts. La question est de savoir s'il s'agit bien d'une infraction pénale ou non, et ça c'est le droit qui doit être dit par la Cour de justice.
Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature. Dans l'affaire Lydie Loger, Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, est mise en examen pour complicité. Michel Fourniret, lui, est mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort. Lydie Loger a disparu en 1993. Dans l'Orne, son corps n'a jamais été retrouvé.
Il est 6h08 aux États-Unis. Donald Trump quittera la Maison-Blanche dans 10 jours. Ce sont 10 jours de trop pour les démocrates.
Après l'attaque du Capitole et les déclarations du président américain, les démocrates veulent pousser Donald Trump vers la sortie, lui qui a incité une insurrection armée, selon Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants. Elle envisage une procédure de destitution. Les précisions aux États-Unis, notre correspondant Benoît Clerc.
Les parlementaires américains ont vivement réagi à l'attaque du Capitole qui a provoqué la mort de 5 personnes avant-hier. La chef des démocrates, Nancy Pelosi, a réclamé la démission immédiate du président et indiqué qu'une demande de destitution serait présentée dès lundi pour incitation à l'insurrection. Si cet impeachment est voté, Donald Trump sera à vie banni de toutes fonctions électives. Un petit peu plus tard dans l'après-midi, Joe Biden n'a pas été plus tendre, fustigeant l'incompétence de son prédécesseur.
Il n'est pas apte à gouverner. C'est l'un des présidents les plus incompétents de l'histoire des États-Unis. Il a indiqué qu'il ne viendrait pas à la cérémonie d'investiture et c'est une bonne chose.
De son côté, la police fédérale a arrêté 23 personnes et en recherche une cinquantaine d'autres. Leurs portraits ont été largement diffusés sur Internet. Google et Apple ont suspendu la plateforme d'extrême droite Parler et peu après minuit, c'est Twitter qui a définitivement fermé le compte du président en raison du risque de nouvelles incitations à la violence. Il avait plus de 88 millions de followers. Aux États-Unis, Benoît Clerc, Europe 1.
Et cette nuit d'ailleurs, après cette décision, Donald Trump a accusé Twitter de museler la liberté d'expression.
Oui, on va voir ce qu'on pense. David Michel. David Michel est totalement francophone, il est franco-américain et il se trouve qu'il est député of state. Vous savez, c'est un État fédéral, donc chaque État a également ses députés au sein même de l'État. Et là, c'est en l'occurrence, c'est le Connecticut. David Michel, le démocrate, sera notre invité tout à l'heure à 7h40. Le football, c'est une étape importante qui sera franchie ce week-end en France.
19e journée, synonyme de mi-saison pour la Ligue 1. On connaîtra donc le champion d'automne, titre décerné en plein hiver cette année en raison du calendrier chamboulé. C'est Lyon qui pourrait remporter ce titre honorifique. L'OL, en effet, enchaîne les succès et se prête à rêver, Cyril de la Morinerie.
Il était arrivé sur la pointe des pieds, critiqué dès sa nomination par les supporters lyonnais en raison de son passé marseillais. Rudy Garcia est en train de réussir son pari. Le technicien de 56 ans a relancé l'OL qui était au bord du gouffre il y a un an et demi. Demi-finaliste de la Ligue des Champions l'été dernier, le septuple champion de France impressionne. Le club rhodanien n'a plus perdu un match depuis la mi-septembre. La victoire décrochée à Paris notamment a marqué les esprits. Mais attention au concert de louanges, répond l'intéressé.
Quand on parle de titre de champion de France à 18e journée, alors que peut-être on sera même pas champion d'automne, parce que ça, on fera tout pour être champion d'automne samedi soir, mais on peut aussi ne pas l'être. Donc ça me paraît remettre les choses en perspective, comme on dit.
Des propos sages et ambitieux de Rudy Garcia. Il faut dire que son équipe marche actuellement sur l'eau. C'est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1, notamment grâce à son capitaine Memphis Depay, auteur de 10 buts. Son milieu de terrain, en particulier le Brésilien Lucas Paqueta, fait des merveilles. Lyon a déjà glané 39 points au classement. La dernière fois que le club rhodanien en comptait autant à mi-parcours, l'OL avait terminé champion de France.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Ce soir, il y aura 10 matchs à 21h. L'OL notamment se déplace à Rennes. Grande soirée de foot à suivre, bien sûr, en direct sur Europe 1.
Enfin, voici qui va ravir les fans de Pascal Obispo.
Une application rien que pour eux, avec uniquement des contenus de leur idole. Pascal Obispo vient de créer sa propre appli. Et c'est une première, Angèle Châtelier.
Souviens-toi. Sortir de la musique dans le style que vous voulez, à l'heure que vous voulez, c'est exceptionnel. Souviens-toi, ma
génération. Pour 6 euros par mois, les fans de Pascal Obispo auront accès à tout son répertoire, mais aussi des chansons inédites et puis des créations. Il s'engage à mettre du nouveau contenu chaque vendredi, ou plus si l'envie lui dit, car c'est l'objectif de son application, qui est à la fois un YouTube, un Spotify, un Facebook. Cette idée lui trotte dans la tête depuis 5 ans. Il se sentait muselé par les maisons de disques que ses musiques et son image leur appartiennent.
Ça a commencé avec le fait de ne pas pouvoir sortir mes lives. Et ensuite, voilà, cette idée de liberté que j'avais envie de gagner, évidemment, parce que c'est un peu frustrant pour un artiste de ne pas pouvoir aller au bout de son plaisir, qui est aussi un plaisir qu'il partage avec des gens qui me suivent.
Dans un an, il n'y aura plus aucun titre de Pascal Obispo sur les plateformes de streaming. Tout ce qu'il reste actuellement, ce sont ceux de son dernier album, dont il va bientôt acquérir les droits.
Pour les Bee Gees, non ?
Je crois pas, il faudrait tenter quelque chose.
Merci Marguerite.
Il y a un créneau.
À tout à l'heure pour le journal de 7h.